Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est RTL Midi. Donc, vous le savez, 2h30 d'information et d'opinion. Avec vous, jusqu'à 14h30. Vous le savez, Pascal Praud prend un peu de repos, mais il sera de retour lundi. D'ici là, RTL vous écoute. RTL reste avec vous. On va échanger, dialoguer, parler de la perspective de 2023 avec ses traditionnelles bonnes résolutions, mais aussi du débat qui revient autour de la tenue uniforme à l'école dans le public. Une proposition venue du RN qui divise jusque dans la majorité. Et puis bien sûr, vous allez réagir à toute l'actualité de cette fin d'année. Le 32-10 est fait pour vous. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Un EHPAD clandestin découvert dans le Loiret après le décès de deux résidents. Nous sommes sur place. L'inquiétude au Vatican. L'ancien pape Benoît XVI est gravement malade. Son successeur François prie pour lui. RTL à Kiev avec le ministre des armées en visite dans la capitale de l'Ukraine en guerre. Et puis on vient de l'apprendre, la disparition de Linda De Souza, décédée à l'âge de 74 ans.
Ça, c'est le grand tube, évidemment, de Linda De Souza. L'un de ses grands tubes, la valise en carton, Linda De Souza, qui a marqué vraiment les années 70-80 avec ce parcours atypique et assez extraordinaire de cette femme venue du Portugal, qui avait commencé qui travaillait dans un immeuble, femme de ménage, gardienne, évidemment, et on pourra en parler avec vous. Elle avait fait des Olympias qui avaient marqué les esprits, et puis une fin de vie sans doute un petit peu difficile. Si vous voulez réagir à la disparition de Linda De Souza, n'hésitez pas, le 32-10. Ce mercredi, c'est le grand retour de la Ligue 1 après le Mondial au Qatar, le retour de Mbappé. On va en parler également longuement avec Yves Leroy, rédacteur en chef au journal L'Équipe. Et puis, autre sujet au menu d'RTL Midi, les bons signaux de l'économie française. Et oui, il y en a. Et ils sont même assez spectaculaires. 1 million d'entreprises créées et des emplois à pourvoir sans cesse plus nombreux.
Question du jour sur RTL.fr. Avez-vous pris une ou des bonnes résolutions pour 2023? Les résolutions, justement, on va en parler dans RTL Midi. Votre vie à 12h20. Un psychologue sera là pour vous aiguiller. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter midi. Les sorties ciné de la semaine, ce sera avec Stéphane Boutsock. Et tout au long de l'émission, des points météo réguliers. Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour à tous.
La tendance?
Perturbé, pluvieux, venteux sur un grand quart nord-ouest, de plus en plus nuageux ailleurs et surtout une très grande douceur, et ce n'est qu'un début.
Merci Anthony, météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
C'est donc un EHPAD que l'on peut qualifier de sauvage qui a été découvert à Dordive dans le Loiret.
Une fausse maison de retraite tenue par une particulière, inspectée en octobre dernier par les gendarmes et les autorités de santé après la mort de deux résidents. Benjamin Pelsi, vous êtes sur place pour RTL. Une enquête a été ouverte, une enquête est en cours.
Oui, c'est ces deux morts qui ont mis en alerte quand le maire, à la suite de l'adresse sur les avis de décès, un ancien restaurant au mur de pierre à l'entrée du village, coincé entre une station-service et un traiteur chinois, reconverti en appartement. Et déjà, en 2016, le maire Jean Berthaud avait fait fermer cette pension pour personnes âgées.
En 2016, nous avons vécu de très grosses inondations et nous avons eu un appel dans la nuit de venir aider pour sortir un certain nombre de personnes âgées handicapées. Quand nous sommes arrivés, il y avait 70 cm d'eau et nous sommes trouvés confrontés avec des personnes âgées en difficulté énorme. Beaucoup étaient avec des ambulateurs, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et nous les avons donc transportés avec difficulté au gymnase et à la maison de retraite de la commune.
Des locations qui ont donc continué, 1 300 € par mois. Au moins 3 personnes ont été évacuées en octobre suite à la visite des gendarmes et de l'ARS. Le maire choqué que cela ait pu recommencer.
On est devant des personnes qui sont sans scrupules, quoi. Et moi, je suis un humaniste et je suis accablé. Je suis accablé. Voilà. Alors, ça se situe dans ma commune, mais je pense que ça se situe ailleurs. C'est pas un EHPAD, hein. C'est pas un lieu aménagé pour accueillir des personnes en difficulté. C'est pas possible.
Aujourd'hui, le bâtiment est sous scellé sur son toit et sur la partie extérieure, toujours le 06 pour pouvoir louer les appartements.
Benjamin Pelletier d'Ordive dans le Loiret pour RTL.
Benoît XVI est donc gravement malade, on l'a appris ce matin, et c'est le pape François d'ailleurs qui l'a fait savoir.
Et depuis, l'inquiétude qui grandit à l'instant, le Vatican confirme que l'état de santé de l'ancien pape allemand s'aggrave, il est âgé de 95 ans. Olivier Bonnel, vous êtes à Rome pour RTL, François appelle à prier pour Benoît XVI.
Le pape François est toujours resté très discret sur son prédécesseur, surtout sur son état de santé, ce qui rend d'autant plus rare son appel aux fidèles d'aujourd'hui.
J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église. Se souvenir de lui, il est très malade, et demander au Seigneur qu'il le console et le soutienne dans son témoignage d'amour de l'Église jusqu'à la fin.
Retiré dans un monastère du Vatican depuis sa renonciation en février 2013, le pape Benoît XVI était apparu très amaigri ces derniers mois sur des photos recevant des proches. Il est comme une petite flamme qui s'éteint progressivement, avait dit son secrétaire personnel il y a quelques mois. La santé des papes au Vatican est un secret d'État, impossible de savoir quel est l'état de santé réel du pape allemand à l'heure actuelle, qui a fêté ses 95 ans au mois d'avril dernier.
Olivier Bonnel, correspondant RTL à Rome et au Vatican.
Et puis l'image du jour nous vient de l'étranger ce matin. Le ministre des Armées est à Kiev.
Sébastien Lecornu est arrivé ce matin. Il assiste à un hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat. Il s'est déjà entretenu avec son homologue ukrainien. Échange capté par notre envoyé spécial à Kiev, Valentin Boisset.
Ici, vous avez des chars russes que nous avons détruits, mais aussi le visage de milliers de nos soldats morts au combat. C'est un lieu de recueillement.
Vous arrivez à avoir une politique de soutien pour les veuves et les enfants des soldats disparus ? Système de pension, d'entraide divers et variés.
Ce sont des soldats sous contrat, donc oui, il faut aider les familles, mais ça coûte de l'argent. On nous envoie de l'équipement, mais il faut aussi de l'argent pour aider tous ces citoyens qui se retrouvent sans les ressources du chef de famille.
Échange entre le ministre français des armées et son homologue ukrainien, recueilli par Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL à Kiev. Nous le retrouverons sur place dans le journal de 12h30.
C'est la semaine de tous les dangers. Voilà, le ministre de la Santé tacle la grève des médecins libéraux.
François Braun en visite ce matin à l'hôpital d'Annecy. Et pour lui, le système de santé a déjà fort à faire avec la triple épidémie grippe. Covid, bronchiolite.
La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de me prononcer sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le droit de grève des médecins, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas dans une période la plus difficile comme actuellement que c'est une bonne chose, me semble-t-il, de faire grève. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera. On ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux.
François Braun au micro M6 de Victor Bastard. Et dans le journal de 12h30, nous reviendrons sur cette épidémie de grippe particulièrement virulente. Un mot d'économie et de ses bénéfices records pour la SNCF. Alors qu'on parlait surtout de la grève ces derniers jours, voilà qu'on apprend ces chiffres, 2,2 milliards d'euros de profit.
Voilà, les 60% de ces profits iront à la rénovation du réseau. On peut évidemment en parler. Est-ce que ça vous fait plaisir, ces bons résultats de la SNCF 32-10?
Le football et le grand retour de la Ligue 1 après la Coupe du Monde avec notamment PSG Strasbourg ce soir. On va en reparler dans quelques minutes. Nous serons avec Yves Leroy, rédacteur en chef adjoint en charge du football au journal L'Équipe.
Le retour des stars sur la pelouse, mais il y a d'autres stars plébiscitées en cette fin d'année, évidemment. Les huîtres.
130 000 tonnes consommées en France tous les ans. Philippe Demaria, on vous a suivi tout ce matin à Gujan-Mestras en Gironde. Vous avez accompagné Olivier Laban, ostréiculteur, dans la dernière ligne droite avant le réveillon du 31.
Oui, depuis 5 heures ce matin, Olivier et son équipe trient les huîtres sorties de l'eau glacée. Ils les conditionnent en bourriche et en palette pour livraison immédiate.
Et on envoie au transporteur.
Ça part où ça, Olivier?
Alors ça part dans le sud de la France et ça part à Agen.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, vous êtes vraiment en plein boom.
Oui, il y a encore, demain, encore une petite expédition sur les plateformes, là, sur les grandes surfaces. Et puis ensuite, on préparera pour nos marchés locaux, grosse journée de vente le 30. le 31 évidemment. Et nous, à la maison là-bas, nous sommes ouverts depuis toujours, le 1er janvier et le 25 décembre. Parce que par respect de nos clients qui consomment nos produits toute l'année, je me vois mal leur dire ben non, le 25 et le 1er, vous ne pouvez pas en avoir. Jusqu'au 1er janvier, 14h, c'est à fond.
Vous finissez comment le mois de décembre ?
Sur les rotules, évidemment.
Olivier et son équipe ont sorti ce matin 3,5 tonnes d'huîtres du bassin d'Arcachon dans la bonne humeur, comme vous l'entendez. Malgré la fatigue, ils se reposeront le mois prochain.
Reportage de Philippe Demaria qu'on a suivi avec beaucoup de plaisir toute la matinée sur RTL. Et puis on l'a appris là il y a quelques instants, juste avant le début de RTL Midi, la mort de la chanteuse franco-portugaise Linda de Souza. Elle avait 74 ans.
Tilulitulula, c'était son plus grand succès à Linda de Souza.
Avec
plus
la
de 500 000 ventes. Alors, la valise en carton, ça c'est autre chose. C'était son autobiographie. On a entendu la chanson tout à l'heure. Le livre s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est absolument faramineux. Et ça donne sans doute une petite idée du souvenir que va laisser chez des centaines de milliers de fans. Évidemment,
et
dans la communauté portugaise. Mais pas seulement, bien au-delà, et vous pouvez réagir au 3210, on vous prendra à l'antenne des 13h à cette disparition qui doit vous attrister, disparition de Linda de Souza à l'âge de 74 ans.
La météo, on vous retrouve Anthony Kazmarek cet après-midi, de la pluie et de la douceur au programme.
Des pluies qu'on retrouve actuellement en Bretagne, en Normandie, elles vont progresser vers l'est, on les retrouvera dans l'après-midi entre les Pays de la Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France, et puis le ciel va s'ennuager à l'avant jusqu'au Grand Est dans le courant de la soirée. Plus au sud, on aura encore un peu de soleil entre les Alpes et la Corse, ainsi qu'entre la plaine toulousaine et les Pyrénées. Mais des entrées maritimes s'installeront près de la Méditerranée, et notamment entre le Languedoc-Roussillon et jusqu'à l'Ardèche. Les températures, donc, de la douceur, ça grimpe par rapport à hier. On sera entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 19 dans le sud, 11 à Paris et Grenoble, 13 à Brest, 15 à Marseille et 18 pour Ajaccio.
Merci Anthony, et à tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et un jour chez vous, cette semaine, c'est avec les héros de 2022.
Aujourd'hui, direction Castres, où le 5 mars dernier, un couple de retraités a littéralement sauvé la vie d'une famille. Quatre personnes bloquées au deuxième étage de leur appartement, en proie aux flammes et surtout à une fumée toxique. Patrick Hisson, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, Michel et Guy sont donc nos héros d'aujourd'hui. Ils ont 72 ans et c'est avec un peu d'émotion, mais simplement le sentiment du devoir accompli qu'ils sont revenus avec vous sur cet incendie qui aurait pu être vraiment dramatique.
Exactement. Une véritable tragédie a été évitée ce matin-là, ou vers 5h. Michel, qui a le sommeil léger, est d'abord réveillé par du bruit.
Je suis descendue au rez-de-chaussée, j'ai ouvert ma porte d'entrée et là j'ai vu le voisin d'en face qui agonisait à la fenêtre de sa chambre, qui cherchait de l'air à respirer, qui m'appelait au secours. Et donc, j'ai réveillé mon mari vite en lui disant « il y a le feu ».
Ni une ni deux, Guy saute de son lit. Il court alors chercher une échelle dans son garage et c'est en pyjama et sous la pluie qu'avec sa femme pour l'épauler, il commence son sauvetage.
J'ai monté l'échelle sur le balcon et là, on a pu atteindre le deuxième étage. Je suis monté jusqu'en haut de la fenêtre et là, j'ai dit « passez-moi le bébé ». Donc j'ai pris le bébé dans les bras, je l'ai descendu, alors bien entendu une seule main. Je vous dis pas que c'était quand même assez périlleux, parce que je risquais de glisser surtout. De là, sur le balcon, j'ai fait passer le bébé à mon épouse.
Avec le même scénario, il va ensuite extirper de la fumée de plus en plus épaisse le petit garçon de 7 ans, la maman et enfin le papa, qui n'a pas de mots assez forts pour les remercier.
Il pleurait, il était tellement heureux on ait pu faire cette action, que pour lui, on a sauvé sa famille, quoi.
C'est humain, ce qu'on a fait. Enfin, puis on ne réalise pas dans ces cas-là. On va droit au but, comme...
Comme l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille.
Ah, vous avez dit non ?
Non, parce que moi, je suis lyonnais, donc c'est pas droit au but.
Droit au but, donc c'est retraité tarnais, dont l'acte héroïque, Patrick, a été salué par l'État français.
Oui, récompensé de la médaille du courage et du dévouement par le préfet du Tarn le 9 novembre dernier. Mais le couple a aussi reçu un autre cadeau fièrement affiché dans l'appartement. Il s'agit d'un dessin réalisé par Sacha, le petit garçon de 7 ans sauvé avec toute sa famille. Un dessin et ses quelques mots que nous raconte Michel.
Merci de nous avoir sauvé la vie. Je fais ce dessin pour vous remercier plein de petits cœurs.
Il y a plein de petits cœurs, effectivement.
Ouais, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ça, c'est ma médaille, ça. C'est quelque chose qui... Ils savent ce qu'on a fait. Ils nous ont pas oublié. Ils nous ont fait ce petit dessin qui... Ben, il reste ici. Hein.
Il y a beaucoup d'émotions de la part de votre mari. Hein. Vous aussi?
Oui, je peux pas.
Bon, c'est quelques larmes, c'est des larmes de bonheur,
oui,
finalement.
Oui, c'est des larmes de joie, ouais, ouais. J'espère que dans leur tête, eh ben, ils oublieront ce feu qui les a certainement assez traumatisés, surtout pour le garçon qui a fait ce dessin.
Formidable Michel et Guy Perrin qui tiennent également à formuler ce vœu pour l'année prochaine, celui d'un monde avec davantage de civisme, d'humanité et de solidarité.
Vœu qui a toute sa place, en effet. Merci Patrick Hisson, correspondant RTL en Occitanie.
C'est vrai qu'ils étaient émouvants, hein, Michel
très
et
émouvant.
Guy, ces héros de l'année. On les a entendus hein, dans les discussions de ce couple héroïque. Le football n'est jamais loin. Il y en avait un qui était pour l'OL, l'autre qui était pour l'OM. Et ben ça tombe bien, parce que le foot français reprend ses droits. Le foot français, certes, ça va s'appeler Celebration Week, le football entre Noël et le jour de l'an. On en parle dans un instant avec le rédacteur en chef adjoint chargé du foot à l'équipe. Yves Leroy, à tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL Midi jusqu'à... RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Ah bah, vous n'avez pas l'air de reconnaître, mais si. C'est l'hymne de la Ligue 1.
Les premières notes, on les reconnaît moins que le jingle.
La Ligue 1 de football, et oui, il va falloir s'y faire, ça reprend. On est à peine remis de la Coupe du Monde au Qatar que le foot reprend ses droits aujourd'hui avec cette Ligue 1, interrompue pendant 6 semaines en raison du Mondial. Évidemment, faut rattraper le retard. Alors, la Ligue de football professionnel a nommé ses 2 journées hein, pendant les fêtes, pendant la trêve des confiseurs, Celebration Week. Et d'ailleurs, je vous donne le programme à 15h03. Nantes, Ajaccio, Angers, 17h Auxerre, Monaco, 19h Clermont, Lille et ce soir 21h Brest, Lyon et Paris Saint-Germain, Strasbourg. Des rencontres entre Noël et le jour de l'an, l'après-midi, ça c'est nouveau chez nous, mais voilà, ça existe depuis longtemps outre-Manche.
Et pour en parler avec nous, Yves Leroy, rédacteur en chef adjoint à la rubrique football au journal L'Équipe, bonjour à vous.
Bonjour.
Le foot français a donc changé ses habitudes avec ses matchs dans cette période de fête. Est-ce que selon vous, ça va prendre auprès du public ?
Alors c'est la grande interrogation de la semaine. Est-ce que ça va prendre auprès du public et est-ce que ça va prendre auprès des clubs ? C'est une adaptation qui est conjoncturelle, hein, qui est liée à la Coupe du Monde. Jusqu'ici, certains dirigeants en rêvaient, pour des raisons commerciales notamment. Mmh. Ça n'avait jamais été mis en place. C'est une tradition en Angleterre où le public adore ça. Ouais. Pour l'instant, les joueurs sont un peu frileux de devoir jouer à cette période dans une année qui est déjà très chargée. Et du côté du public, il y a des stades qui seront pleins en ce milieu de semaine et en début de semaine prochaine. Mais il y a aussi des publics qui sont très opposés à la programmation, notamment lundi en milieu d'après-midi. Il y a des publics qui appellent au boycott.
On se dit qu'en période de vacances, que les familles vont pouvoir plus facilement aller au stade, non ?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Après, on peut aussi considérer que ce sont des fêtes familiales. Nous, à l'équipe, on est plutôt contents de retrouver du football rapidement. Une semaine après la Coupe du Monde, ça nous manque déjà. Donc voilà, on se replonge dedans avec plaisir, avec passion. Du côté des joueurs, c'est sûr que c'est une année qui est un peu particulière, avec une forme de sprint permanent pour ceux qui ont joué la Coupe du Monde notamment. Pour les autres, une longue coupure à gérer avec une deuxième préparation de saison. Et puis des clubs qui ont eu l'occasion de se poser beaucoup de questions. Ceux qui ont réussi leur première moitié de saison, est-ce que ça va durer ? Ceux qui l'ont raté, faut-il changer d'entraîneur ? Faut-il recruter en janvier ? Ben voilà, ça ajoute pas mal d'inconnus et aussi un suspense qui est intéressant à suivre pour nous et pour nos lecteurs.
Oui, mais justement, après ce mondial où le spectacle a été au rendez-vous, est-ce qu'on peut reprendre facilement notre bon vieux football français, ouais, notre bonne vieille Ligue 1 ?
Vous voulez dire qu'on va redescendre de plusieurs étages ?
Je n'ai rien dit, moi. Je laisse les spécialistes en parler.
Il faut peut-être se mouiller un peu la nuque, effectivement, mais il y a des enjeux qui sont passionnants, et puis il y a des acteurs communs. On va voir Kylian Mbappé dès ce soir au Parc des Princes. On l'attendait pas aussitôt, mais il sera là. Neymar, un des acteurs déçus aussi de la Coupe du Monde, sera là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. On a découvert des joueurs aussi pendant le Mondial. Je pense par exemple aux deux Angevins, Unai Boufal, qu'on reverra peut-être à Angers, puisqu'il est question aussi qu'il le club
peut-être.
Voilà, peut-être.
Mais vous avez parlé de Mbappé et de Neymar. Est-ce que pour ces deux superstars qui ont marqué le Mondial, jouer face à Strasbourg ce soir est vraiment motivant ?
Ah bah là, on est plutôt dans le domaine de la thérapie, on va dire. C'est eux qui ont souhaité revenir assez vite. Enfin, Neymar est dans un calendrier normal, mais Kylian Mbappé était attendu beaucoup plus tard à l'entraînement. Il a senti que c'était nécessaire pour lui d'effacer une déception incroyable. Marquer un triplé en finale de Coupe du Monde et ne pas gagner la Coupe du Monde, ça paraît complètement incongru. C'est un compétiteur, il a d'autres objectifs sur la deuxième moitié de saison. Après, le club est très vigilant par rapport à ça. Ils ont indiqué, le club a indiqué qu'il aurait un moment un break, comme Achraf Hakimi, qui a lui aussi repris plus tôt que prévu. Il va falloir surveiller la manière dont il gère ça au niveau sportif jusqu'ici. À chaque fois qu'il a eu des petites déceptions, parce qu'il n'a rien connu de tel, il a toujours rebondi extrêmement rapidement. C'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire du football. Maintenant, le physique va-t-il suivre ? Aura-t-il un moment un petit break mental ? Voilà, le club va lui donner un peu de vacances ensuite sur la semaine suivante, a priori. Mais c'est intéressant de voir comment un champion comme ça peut rebondir.
Et puis on attendra évidemment le retour de Messi. Cette Celebration Week, donc ces matchs pendant la trêve des confiseurs, on le rappelle, c'est exceptionnel, c'est lié à l'organisation de la Coupe du Monde en hiver. Ça veut dire que c'est un one shot, comme on dit, ça n'arrivera qu'une fois.
Pour l'instant, c'est plutôt l'idée. Le syndicat des joueurs a alerté sur le fait que c'était justement ponctuel et que c'était ce qui était dealé avec la Ligue de football professionnel, qu'eux ne souhaitaient pas que ce soit reconduit. Et maintenant, si c'est un succès d'audience, que ça suscite de la curiosité à l'étranger, que ça permet d'augmenter les droits télé aussi, parce que c'est un des enjeux majeurs pour le développement du foot français, peut-être que tous les acteurs auront envie de se retrouver autour de la table et de se mettre d'accord sur le fait que ça devienne pérenne. Mais aujourd'hui, c'est un one shot, effectivement.
Merci Yves Leroy du journal L'Équipe. Merci d'être passé dans RTL Midi. Et puis un conseil, le podcast On refait le match, signé Christophe Paco, 10 jours après retour sur le terrain. C'est disponible sur RTL.fr, sur l'appli RTL.
Eh bien, tiens, ne plus forcément regarder tous les soirs les matchs de foot à la télé. Ça peut faire partie des bonnes résolutions de 2023. Je dis ça pour la paix des ménages. Message personnel. On peut en parler si vous voulez. En tout cas, les bonnes résolutions, on en parle dans un instant au 32-10 avec le professeur Florian Ferreri. À tout de suite.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero. RTL Midi. Votre vie.
Votre vie vous parle des bonnes résolutions. Vous savez, celles que l'on prend en ce moment, à quelques jours du 1er janvier, arrêter de fumer, travailler moins, se mettre au sport, prendre du temps pour soi, pour la famille, faire un régime. Bon, la liste est longue. Encore faut-il les tenir, ces bonnes résolutions. Alors, on vous a posé la question, qu'est-ce que vous avez pris comme engagement pour 2023 ?
J'ai pas de date spécifique pour prendre de bonnes résolutions. De mon point de vue, on n'attend pas le 31 décembre, mais après, chacun fait ce qu'il veut.
Oui, pourquoi pas être plus tourné vers mon prochain, ce que j'ai pas trop fait en 2022 avec le Covid et tout ça. Donner plus de temps vers les autres, par exemple. Aider plus mes amis, ma famille.
Voilà, par exemple, ce que vous ont dit ce matin quelques Parisiens croisés par Juliette Mély.
On en parle avec le professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, spécialiste des dépressions et de l'anxiété. Bonjour.
Bonjour.
Ça sert à quelque chose, selon vous, les bonnes résolutions ou c'est simplement pour se donner bonne conscience ?
Ah non, c'est pas indispensable, mais ça peut être fort utile parce que c'est le début du changement, quand on pense à un changement, c'est déjà initier quelque chose. Donc c'est intéressant. Et puis l'autre aspect, c'est aussi de se projeter avec une meilleure image de soi, c'est déjà positif en soi.
Alors on entend souvent des résolutions sur le tabac, l'alimentation, l'alcool, les jeux, les écrans. Forcément, on pense aux personnes qui souffrent un peu d'addiction. Ça peut aider de prendre une bonne résolution pour, j'allais dire, décrocher.
Ça peut aider parce qu'il y a certaines personnes qui sont effectivement en lien dans ces problématiques et qui sont parfois, malgré elles, un peu dans le déni. Et le fait d'avoir des moments dans l'année où on pense à initier quelque chose, seul ou en se faisant aider, ça peut être quand même un levier intéressant, même si le fait de prendre des résolutions ne suffit pas à régler le problème, sinon ça serait trop simple.
Oui, ça serait assez facile, et on serait nombreux à le faire. Vous avez évoqué d'ailleurs le passage à l'année suivante, ça sert aussi à canaliser l'angoisse que peut générer la nouvelle année et aider à se projeter un peu dans le futur ?
Ah bah tout à fait, je pense que dès qu'on arrive à aller de l'avant, à se donner des projets et des perspectives, c'est apaisant, puisque le cerveau humain lui a plutôt tendance à envisager des soucis. Si on envisage des choses positives pour soi, ça peut être intéressant. Alors, il ne faut pas trop en avoir non plus, sinon après, on est confronté à l'échec. Et ça, c'est une autre problématique.
Alors voilà. D'abord, parce que bien souvent, ces bonnes résolutions, elles sont pas tenues. Je ne sais pas si c'est quantifié. Mais évidemment, il faut se fixer des objectifs atteignables.
Alors oui, des objectifs atteignables. Alors, et puis en même temps, il faut se dire que de ne pas tenir ses résolutions, ce n'est pas dramatique. On sait que dans 90% des cas, elles ne tiendront pas le mois de janvier. Mais quand bien même, quand on a pensé à faire quelque chose, ce n'est pas grave, ça fait partie du processus de changement d'avoir des retours en arrière, des échecs entre guillemets, et de se relancer sur une autre dynamique à un autre moment de l'année ou l'année prochaine si besoin.
Et vous avez parlé de l'échec. Comment ne pas trop culpabiliser ? Prenons l'exemple du tabac, par exemple. Aujourd'hui, la résolution d'arrêter la cigarette le 31 décembre à minuit, et puis paf, on tient quelques jours et ça repart. Et là, le risque, il est de culpabiliser ?
Le risque, il est de culpabiliser, de se sentir incapable d'arrêter. Mais déjà, le fait de vouloir essayer de changer, encore une fois, c'est déjà bien. Mais si on a déjà essayé par le passé plusieurs 31, peut-être changer un petit peu de stratégie et ne pas simplement passer à l'idée, mais à la préparation de ce changement. Certains vont avoir besoin de substituts, d'autres vont passer à la cigarette électronique, donc d'autres vont diminuer plus progressivement. Donc peut-être apprendre de ces erreurs passées ou de ces échecs passés pour programmer quelque chose, planifier un projet qui aura plus de chances d'aboutir. Mais le tabac, l'alcool, ce sont des choses très compliquées, c'est sûr.
La bonne résolution, on la garde pour soi ou on la divulgue, on la dit aux autres comme se lancer un défi en public?
Alors là, c'est pas simple de répondre. Il y a quelques études qui sont parues qui ont dit que si on en parlait autour de soi, ça pouvait être négatif. Non pas que l'entourage nous décourage, mais le fait d'être déjà valorisé dans le fait d'avoir pris la décision baissait un petit peu la motivation à aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, en parler à un cercle restreint pour pas que tout le monde soit trop dans l'attente d'un succès imminent.
C'est-à-dire qu'on en parle, mais on n'en fait pas toute une montagne, c'est ça ?
Exactement, parce que le risque après, c'est d'être confronté au regard des autres, éventuellement aux moqueries, au sarcasme de certains, et là, ça peut être à la fois démotivant et puis surtout aggraver l'impact de l'échec, si échec il y a.
Eh bien, merci beaucoup. Vous en prenez, vous, professeur Ferreri, des bonnes résolutions ?
Ah ben, j'essaye. C'est bien comme tout le monde, j'ai du mal à m'y tenir.
Et voilà. On est tous un petit peu dans la même galère. Et vous, Antoine Cavalier ?
Oui, ben, pareil. Hein.
Pareil ? Oui, vous ne voulez pas le dire aux auditeurs d'RTL ?
Non, surtout pas.
Et voilà, vous avez écouté les conseils du professeur. Parfois, il vaut mieux les garder pour soi, pour pas se retrouver en difficulté. Merci beaucoup, professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et spécialiste de la dépression et des anxiétés. Il est 12h30. Quelque chose qui arrive.
RTL Midi, le 12h30, Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Et bonjour si vous nous rejoignez à 12h30. Merci évidemment de rester avec nous si vous l'êtes depuis midi. RTL Midi, c'est jusqu'à 14h30. Et pour la grande édition de la mi-journée, c'est avec vous Antoine Cavallero.
Le grand retour du foot français, la reprise de la Ligue 1, c'est aujourd'hui. Mbappé attendu ce soir contre Strasbourg, Neymar aussi. Un drame dans une clinique d'André-Loire, une sexagénaire refusée à la porte des urgences. Elle est décédée quelques heures après. La crise à l'hôpital, François Braun, ministre de la Santé, parle de semaines de tous les dangers et prévient l'épidémie de grippe explose. On y revient. RTL en Ukraine, le ministre des Armées est arrivé à Kiev ce matin. Et puis la disparition de la chanteuse Linda De Souza, elle avait 74 ans. On l'a appris il y a quelques minutes.
Et bien évidemment, vous pouvez réagir à cette disparition de Linda De Souza au 3210. Prochain rendez-vous, 12h40, les bons signaux de l'économie française, parce qu'il y en a effectivement, ils sont spectaculaires, les créations d'entreprises, 1 million et même un peu plus sans doute d'entreprises créées en 2022, et puis des emplois à pourvoir qui sont sans cesse plus nombreux, mais paradoxalement également une baisse du chômage. On en parle tout à l'heure avec un spécialiste.
Votre rendez-vous culture, que voir cette semaine au cinéma, Stéphane Boutsock nous rejoint à 12h50. La question du jour sur RTL.fr, oui. Je vous la rappelle, avez-vous pris une ou des bonnes résolutions pour 2023.
Oui, et d'ailleurs, vous pouvez nous les dire, ces bonnes résolutions, finalement. Prendre les auditeurs d'RTL à témoin et nous expliquer quel défi vous allez vous lancer. En tout cas, n'hésitez pas. Jusqu'à 14h30, vous serez les bienvenus au 3210 sur toute l'actualité.
La météo à la fin du journal, Anthony, un indice.
Perturbé avec de la pluie et du vent fort dans le nord-ouest et une très grande douceur qui n'est qu'un début, le week-end s'annonce historiquement doux.
Merci Anthony.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
C'est un drame qui illustre sans doute la crise que traverse l'hôpital. En Indre-et-Loire, une sexagénaire est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait été reconduite par les urgences.
Les urgences de la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire qui lui ont donc refusé l'accès. Elle est morte quelques heures plus tard chez elle d'une crise cardiaque. Christian Panvert, une enquête a été ouverte par le parquet de Tours.
Oui, pour tenter de faire toute la lumière sur les causes de la mort de cette femme. Le jour de Noël, la sexagénaire ne se sent pas bien. Elle a du mal à respirer. Son mari décide alors de la conduire jusqu'aux urgences de la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire à 8 km. À la porte, on informe au couple que le service est dans l'impossibilité de la prendre en charge. On lui préconise de contacter le 15 comme le veut la procédure. L'époux ramène sa femme à son domicile tout en composant le numéro. Une ambulance est envoyée. Il dit de faire vite, son état de santé s'est détérioré. Sur place, les pompiers la prennent en charge. Elle est en arrêt cardiaque. Ils vont tout faire pour tenter de la réanimer, mais elle va décéder vers minuit. Alors, une faute a-t-elle été commise aux urgences de la clinique? L'agence régionale de santé a diligenté une enquête pour essayer d'obtenir des réponses. Le CHU refuse de communiquer. Quant à la famille, elle n'a pour l'instant pas déposé plainte.
Christian Panvert pour RTL.
La question des hôpitaux débordés. Bah tiens, justement, François Braun parle de la semaine de tous les dangers, cette semaine que l'on traverse. Le ministre de la Santé n'est pas tendre avec la grève des médecins.
Un mouvement malvenu, selon ses mots. Déclaration lors de la visite de l'hôpital d'Annecy ce matin. Les hôpitaux submergés par la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite. Et Virginie Garin, celle qui inquiète le plus, c'est la grippe.
Voilà, le nombre de cas a augmenté de 30% en une semaine dans toutes les régions et dans toutes les classes d'âge, sauf les enfants. Et le nombre d'hospitalisés pour grippe a explosé, lui, de 75%, plus de 2700 personnes en une semaine. Alors, le ministre l'a rappelé ce matin, il faut que les gens, surtout fragiles, se vaccinent contre la grippe, que tout le monde pense aux gestes barrières. Heureusement, la 9e vague de Covid est en train de se calmer. Le nombre de cas quotidiens baisse depuis 15 jours. Il y avait encore 30 000 personnes malades hier, mais ça baisse. Et surtout, le nombre d'hospitalisations diminue depuis quelques jours. Alors, cela dit, il faut rester vigilant, car une vague peut en cacher une autre. Il y a eu encore hier 200 personnes décédées en France avec le Covid et les chiffres de nouvelles vaccinations s'effondrent, divisés par 2 en 15 jours. Seulement 40% des plus de 70 ans sont correctement protégés. Donc faites attention, les hôpitaux sont en très grande difficulté.
Virginie Garin, spécialiste santé de RTL, merci à vous.
On reparle du foot ?
On reparle du foot,
ben
car
oui,
après...
Retour sur les pelouses de Ligue 1.
Et oui, après un mois de foot mondialisé, la 16e journée de Ligue 1 débute cet après-midi. Tous les regards se tournent évidemment vers les stars du Qatar. On devrait en voir deux ce soir avec le maillot du PSG. Kylian Mbappé sera là contre Strasbourg et Baptiste Durieux. On attend aussi, sans doute, Neymar, le Brésilien, quelque peu déprimé après sa Coupe du Monde au Qatar.
Et oui, c'était l'objectif de sa vie et cette nouvelle désillusion laisse des traces physiques d'abord avec une blessure à la cheville au début du mondial et puis mentale après l'élimination d'un Brésil archi favori. Alors dans quel état va-t-on retrouver Neymar, lui qui brille tant avec le PSG depuis le début de saison? Réponse rassurante avec Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
Oui, on a vu sa blessure, on a vu sa cheville gonflée, mais derrière, il a pu enchaîner deux matchs. On a vu le magnifique but qu'il a pu marquer. Malheureusement, derrière, il y a eu l'élimination du Brésil. Entre-temps, il a pu se soigner. Il a eu 12 jours de coupure. Il va bien sur un plan physique et sur un plan mental. Il a très envie de jouer, c'est bon signe, c'est très bien.
Un autre joueur qui a très envie de jouer, c'est Kylian Mbappé. Alors, une histoire différente, évidemment, de celle de son coéquipier Neymar, mais un état d'esprit identique, rejouer le plus rapidement possible pour évacuer la frustration du Mondial. Et dès ce soir, le Parc des Princes aura le plaisir d'applaudir ces deux stars pressenties pour être sur la pelouse dès le coup d'envoi.
Merci Baptiste. PSG Strasbourg à 21h, tout comme l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Brest. Deux matchs à 15h, 3 Nantes et Ajaccio contre Angers à 17h. Auxerre reçoit Monaco. 19h, Lille va à Clermont.
Et oui, il va falloir s'y habituer, en tout cas pour cette année, hein, à ces matchs de foot pendant la trêve des confiseurs. On en parlait tout à l'heure, dès midi, le ministre des Armées est à Kiev. Il est arrivé ce matin, Sébastien Lecornu.
C'est son premier déplacement en Ukraine. Il vient pour un hommage aux soldats ukrainiens tombés sur le champ de bataille, mais il vient également pour parler coopération militaire. Il a d'ailleurs assisté à un entraînement des forces ukrainiennes équipées d'armes françaises. Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial. Vous avez pu suivre le ministre Lecornu.
Ici, vous avez des chars russes que nous avons détruits, mais aussi le visage de milliers de nos soldats morts au combat. C'est un lieu de recueillement.
Vous arrivez à avoir une politique de soutien pour les veuves et les enfants des soldats disparus? Système de pension, d'entraide diverses et variées.
Ce sont des soldats sous contrat, donc oui, il faut aider les familles, mais ça coûte de l'argent. On nous envoie de l'équipement, mais il faut aussi de l'argent pour aider tous ces citoyens qui se retrouvent sans les ressources du chef de famille.
Voilà, alors vous l'avez noté, c'était pas notre envoyé spécial Valentin Boisset, mais un dialogue entre le ministre français des Armées et son homologue ukrainien. Vous l'aviez entendu d'ailleurs à midi. On retrouvera Valentin Boisset un peu plus tard, évidemment, dans une de nos éditions. On va en Espagne, Antoine Cavalierou, parce que une mesure choc a été prise contre l'inflation.
La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Les prix de l'alimentation ont augmenté là-bas de 15% cette année. Aurélie Chamerois, l'annonce hier du gouvernement socialiste est donc la bienvenue pour les plus modestes.
Oui, plus de TVA sur le pain, la farine, le lait, les œufs, les fruits et légumes et les féculents. C'est l'annonce phare du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour continuer à lutter contre la hausse de prix. Et la mesure sera en vigueur au moins jusque fin juin 2023.
Le gouvernement a approuvé diverses mesures pour soulager les familles. Réduire la TVA de 4% à 0% pour tous les aliments de première nécessité et de 10% à 5% sur les huiles et les pâtes.
Para el aceite y la pasta.
Un chèque de 200 euros sera également octroyé aux familles dont les revenus ne dépassent pas les 27 000 euros par an, soit un peu plus de 4 millions de personnes. La gratuité des trains de banlieue est maintenue, ainsi que la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. Mais c'est fini pour la ristourne de 20 centimes par litre sur le carburant, sauf pour les professionnels du transport routier. Les agriculteurs recevront des aides directes pour faire face à la hausse des engrais. Avec cette nouvelle série de mesures, Madrid aura déboursé au total 45 milliards d'euros pour tenter de contrer l'inflation.
Aurélie Chamerois, correspondante RTL en Espagne. Un dernier mot de l'étranger avec évidemment l'inquiétude qui grandit au Vatican. L'ancien pape Benoît XVI est gravement malade. On l'a appris ce matin. Son successeur François prie pour lui.
Puisqu'on a appris également en fin de matinée, c'est la disparition de Linda de Souza à l'âge de 74 ans.
D'origine portugaise, elle était très très populaire dans les années 80. Linda de Souza n'avait jamais caché ses origines modestes et ses doutes face à la célébrité. Comme dans cette interview sur RTL il y a exactement 40 ans, en 1982, juste avant, c'était juste avant une série de concerts à l'Olympia à Paris.
Si je fais ce métier, c'est parce que j'ai envie d'être aimée. Mais au fond de moi, je suis très jalouse. Quand il y a une autre femme, je pense qu'elle est toujours plus belle que moi. Je suis perdue, même aujourd'hui, ce métier. C'est un rêve pour moi. Quand je fais des spectacles, je vois des salles pleines, que je monte sur une scène, je me dis... C'est possible que les gens viennent m'admirer à moi. Vous savez, avant de monter sur scène, je me regarde dans une glace, toujours peur. Est-ce que mes cheveux sont bien coiffés? Est-ce que cette robe va bien? Est-ce que je vais plaire? Je remercie beaucoup RTN. Ça a été la seule radio qui a cru en moi. Quand on a présenté le disque de Portugais, ça a été la seule qui m'a aidé à me passer et qui a cru en moi.
Voilà, Linda de Souza sur RTL, vous l'avez entendu en 1982 dans l'émission Parlez-moi d'amour. Elle parlait de la jalousie qu'elle avait. C'était d'ailleurs frappant de sincérité. C'était au micro d'Anne-Marie Pesson. Alors, Linda de Souza et RTL, vous l'avez entendu, c'est une longue histoire. Les auditeurs d'RTL l'aimaient vraiment. Et je vous propose de prolonger, évidemment, tout à l'heure, dans Les Auditeurs ont la parole, à partir de 13h, cet hommage à Linda de Souza qui nous a donc quittés à l'âge de 74 ans. On vous appelle au 3210. On vous attend au 3210.
Le temps, on vous retrouve Anthony Kaczmarek, toujours de la pluie cet après-midi.
Oui, la pluie qu'on retrouve actuellement en Bretagne et sous la Normandie, elle va avancer vers les Pays de la Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et puis surtout beaucoup de vent. Des vents qui souffleront jusqu'à 90 km/h en rafale près des côtes de la Manche et 60 à 80 km/h dans les terres, donc un vent très sensible. Ailleurs, le ciel va s'ennuager du sud-ouest au Grand Est, mais sans doute qu'en pleine Toulousaine et vers les Pyrénées, vous devriez rester au sec avec du soleil, soleil aussi entre les Alpes et la Corse. Mais les entrées maritimes vont arriver sur le pourtour méditerranéen, surtout sur le golfe du Lion et jusqu'en Ardèche. Donc là, le ciel va se couvrir. Douceur pour ce mercredi avec 8 degrés à Nancy, 9 à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 13 à Brest, 15 degrés à Marseille et Nice et encore 18 degrés à Ajaccio. Une douceur qui va encore s'accentuer pour la fin de semaine et la Saint-Sylvestre.
Ouais.
Samedi s'annonce historique.
Non.
Météo France parle d'une douceur phénoménal. Ce sont des mots quand même rares chez Météo France.
Une Saint-Sylvestre aux alentours de 15-16 degrés.
Voire plus. 18 degrés à Strasbourg, 20 degrés en Auvergne, 23 en Aquitaine. Ce seront des records absolus.
Ah ben ça aussi, on pourra peut-être en parler. Alors, on va peut-être attendre de la passer, cette Saint-Sylvestre. Mais
on
si
a déjà
on a 23 degrés aux alentours de 20 degrés pour la Saint-Sylvestre, bon, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça sera agréable. Merci beaucoup, Anthony. Il est 12h42, on va marquer une courte pause et puis dans un instant, on va parler de chiffres et de l'économie française avec ses records de création d'entreprises, un chômage à la baisse, mais des emplois à pourvoir comme s'il en pleuvait. Est-ce que ce sont des signaux vraiment verts pour notre économie? Est-ce qu'il y a quand même des mauvaises nouvelles? On sera avec Mathieu Plane de l'OFCE dans un instant, à tout de suite.
RTL Midi, Vincent Parizeau, Antoine Cavallero.
Lidl.
RTL Midi. Vincent Parizeau, Antoine Cavallero.
Oui, parlons chiffres, parlons économie quelques minutes. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux entrepreneurs en France. En 2022, le cap, très symbolique mais spectaculaire, du million d'entreprises créées devrait être franchi. On en est pour l'instant à 980 800 inscriptions. Il reste encore le mois de décembre à comptabiliser. Donc ça sera fait. Et puis, le ministère du Travail a annoncé hier une baisse de plus de 2% des chômeurs en novembre. Sur un an, la baisse frôle les 10%. Et en même temps, on constate que des centaines de milliers d'emplois sont à pourvoir. Alors, est-ce que l'économie française est plus en forme qu'on ne le pense?
Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint du département prévision-analyse à l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques. Chômage, création d'entreprises, est-ce que ces deux indicateurs montrent que nous sommes sur une bonne dynamique?
Alors, bonne dynamique en tout cas, on voit qu'il y a une résilience de l'économie française hein, face aux différents chocs qu'on connaît. Et donc, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, hein, le verre à moitié plein, hein, c'est que les entreprises tiennent le coup dans cette tempête économique hein, qu'on connaît notamment suite à la guerre en Ukraine ou même les difficultés d'approvisionnement qu'on a eues avec la Chine. On voit que les entreprises gardent le moral, embauchent et investissent. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des créations d'entreprises qui sont nombreuses. Et donc, on a finalement une économie qui ne va pas très bien, mais qui ne plonge pas. Et ça, c'est vraiment plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, la question,
comment ça s'explique pour... Comment ça s'explique que ces entreprises résistent aussi bien?
Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense que le premier, c'est que finalement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour passer la crise Covid, la crise énergétique notamment, ont quand même limité la casse. On voit qu'on a moins d'inflation qu'ailleurs, même si, bien sûr, c'est venu impacter le pouvoir d'achat des ménages. On voit que les entreprises ont plutôt tenu le coup. Il y a plutôt peu de défaillances d'entreprises, hein, notamment, même si ça remonte, on voit que finalement, les faillites restent limitées. Mmh. Et puis, on voit qu'on avait des financements qui étaient encore bon marché. Donc, j'allais dire que tout ça a permis à l'économie française de tenir. La question fondamentale, c'est que ce verre à moitié plein, est-ce qu'il ne va pas devenir à moitié vide pour 2023? Parce qu'il est possible qu'on ait mangé une partie de notre pain blanc. Hein.
Plus de 60% des entreprises créées cette année sont des micro-entreprises. Mmh. Est-ce que ça doit un peu nuancer le tableau?
Oui, bien sûr. Alors, ça montre que d'abord, il y a quand même un dynamisme dans les créations d'entreprises. Ouais. C'est facilité par les micro-entreprises. Donc attention, hein, c'est pas... Toutes n'ont pas la même qualité dans leur création ou dans leur activité. Il y a une forme de nouvelle génération hein, qui est peut-être plutôt portée sur l'entrepreneuriat. Et puis, par contre, il y a aussi une forme de précarisation hein, aussi de certains métiers. on le voit avec le développement des services à la personne, notamment.
Ou des livraisons. Des services de livraison. Voilà. À chaque fois, on crée sa micro-entreprise. Est-ce que ça montre aussi finalement.
Avec des revenus qui peuvent être assez faibles, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le revenu associé à tout ça.
Hein. Est-ce que ça montre aussi, un désenchantement vis-à-vis du salariat ? C'est-à-dire qu'on démissionne et on crée sa micro-entreprise ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que toutes les pistes peuvent être étudiées surtout. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de prise de risque qu'avant. On voit d'ailleurs les démissions augmenter, hein, y compris en CDI, hein, des personnes qui sont salariées. On voit qu'on a un marché du travail qui est plus tendu, avec plus de possibilités et d'offres d'emploi. Donc c'est certainement, quand le marché du travail est dynamique, c'est l'occasion de créer son entreprise, de tenter sa chance. Et donc on voit qu'on a ce phénomène-là, avec aussi, attention, des petits métiers aussi qui se développent, qui ne sont pas toujours avec des revenus élevés. Donc tout n'est pas comparable dans la création d'entreprise.
Hein. Et Mathieu Plan, ce qui est étonnant avec cette nouvelle baisse du chômage, on n'arrête pas de parler de grandes démissions d'emplois à pourvoir, et pourtant le chômage baisse.
Ben ça va ensemble en réalité. C'est-à-dire que justement, c'est parce que les entreprises proposent beaucoup d'emplois que le chômage baisse. On a d'ailleurs des records dans les créations d'emplois, hein, ce qui est aussi la bonne surprise. C'est-à-dire que sur le troisième trimestre, on a à peu près 100 000 créations nettes d'emplois, ce qui est quand même extrêmement important au regard de l'activité qui est en face. En revanche, on a des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs. Donc il y a des emplois qui sont non pourvus, où ça prend du temps de trouver quelqu'un. C'est plutôt quand le marché du travail va bien qu'on va avoir des emplois non pourvus, c'est-à-dire que les entreprises vont pas trouver immédiatement la personne adéquate et vont devoir mettre un peu de temps à rechercher, ce qui fait que pendant ce temps de recherche, les emplois sont non pourvus. Mais ça, c'est plutôt le signe d'un marché du travail relativement dynamique. Ça ne veut pas dire que ces emplois non pourvus ne vont pas trouver de personnes, hein. C'est-à-dire que c'est le temps de trouver.
Oui, c'est ça, il y a un décalage. Création d'entreprise, chômage à la baisse, ça veut dire des cotisations supplémentaires, tout ça va faire du bien au compte public.
Oui, finalement, on voit que malgré les dispositifs publics qui ont été mis en place, hein, qui ont été très généreux hein, quand même depuis la crise Covid, on va dire même historique, on a des déficits publics qui sont élevés, hein, mais qui sont moins élevés que ce qu'on aurait pu attendre, qui sont autour de 5% du PIB. Malheureusement, là, ça ne va pas être la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas quand même rester à ce niveau de déficit. Donc c'est vrai que s'il y a des bonnes nouvelles, il est quand même moins élevé que prévu, mais il reste relativement élevé. Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts pour revenir aux 3%. Et ça, j'allais dire, c'est plutôt devant nous hein, qu'il y a un certain nombre de difficultés qui s'annoncent.
Mais je croyais que c'était oublié, cette affaire de 3%. On y revient ? Faut y revenir ?
Alors, ce n'est pas moi qui l'annonce, hein, c'est le président de la République qui s'est engagé à ramener les comptes publics à 3% d'ici la fin du quinquennat. Vous avez raison, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelait les critères issus du pacte de stabilité, les fameux critères de Maastricht, en fait, qui ne sont plus Maastricht aujourd'hui, mais avaient été mis de côté durant les crises Covid et la crise énergétique. Ils vont revenir sous une nouvelle forme à partir de 2024. C'est en discussion d'ailleurs avec les partenaires européens. C'est pour ça que le président de la République s'engage aussi sur un certain nombre de réformes, y compris les retraites, l'assurance chômage, pour trouver des nouvelles sources d'économie. Mais ces sources d'économie auront certainement un impact aussi sur l'économie française, sur les niveaux de vie ou le pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas des économies faciles.
Mathieu Plan, on peut donc se réjouir de ces créations d'entreprises, on peut se réjouir de ce chômage qui baisse, mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui, on va dire, sont un petit peu moins verts, qui sont plutôt inquiétants pour l'économie française ?
Bon, je ne voudrais pas gâcher les fêtes, hein, mais je trouvais que le thème était sympathique, mais il y a plus d'indicateurs rouges que d'indicateurs verts, malheureusement. C'est-à-dire que la résistance dont fait preuve la France et l'économie française est plutôt bienvenue, mais malheureusement, quand on voit l'horizon hein, et les nuages qui s'accumulent, 2023 va être très difficile. On voit déjà la question du pouvoir d'achat, hein, quand vous voyez...
Oui, l'inflation va continuer de galoper.
Le pic d'inflation n'est pas passé, hein, c'est plutôt pour le début d'année prochaine. On voit que les pertes de pouvoir d'achat liées à l'énergie depuis le début de l'année, c'est plus de 700 euros en moyenne par ménage. On voit aussi des entreprises qui ont une facture énergétique qui va être renouvelée, qui va fortement augmenter, donc avec des risques de défaillance, des taux d'intérêt qui remontent et un coût du financement qui va être beaucoup plus élevé. Donc la liste est longue, hein, j'allais dire malheureusement. Donc on va essayer d'avoir en tout cas une économie qui ne passera pas dans la récession, mais on doit s'attendre à une croissance malheureusement très
molle. Elle est vraiment écartée cette récession ? Enfin, le spectre va rester là pendant de longs mois ?
Oui, il est là, il est important. En fait, c'est surtout cette incertitude hein, qui est très forte, et notamment liée aux incertitudes géopolitiques, on le voit, et notamment la question de l'énergie. Mais malheureusement, on ne peut pas l'écarter. Mais pour le moment, effectivement, on ne va pas gâcher notre plaisir non. Et la croissance française résiste plutôt pas mal.
Voilà, et on va profiter de ces indicateurs, même si, vous le soulignez, la situation globale est beaucoup plus contrastée avec pas mal de points d'interrogation sur 2023. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Mathieu Plat, directeur adjoint à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez envie d'aller au cinéma ?
Mais toujours.
Ça tombe très bien parce que Stéphane Boutsock va vous conseiller quelques sorties pour cette semaine. C'est LVT Midi et c'est dans un instant.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero. On défait le... RTL. Laissez-vous tenter midi.
Il y a donc du cinéma au programme de ce LVT midi du mercredi et c'est avec vous Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors les dernières nouveautés, les dernières,
c'est
là,
c'est
parce
là.
Qu'on est à trois jours maintenant de la date fatidique, les dernières nouveautés débarquent sur nos écrans ce 28 décembre et vous avez tout d'abord choisi une comédie qui est à la fois familiale et musicale.
Ça s'appelle Cœur de rocker, film de Ida Teicher et Luc Bricot. C'est l'histoire d'Alex. Alex, elle est chanteuse de bar, sa carrière n'a jamais vraiment démarré, et bah, pour vivre, elle va se voir proposer d'animer une chorale municipale de personnes âgées. On est dans la région de Dunkerque. Et elle va vite comprendre que ses élèves ne sont pas du tout motivés puisqu'on leur fait chanter de vieilles rengaines d'avant-guerre. Non, ce que veulent ses mamies et ses papis, c'est ça.
Autre chose. Ah oui.
Ah bah oui, les Clash.
Les doigts bien branchés dans la
prise. Bien sûr. Salut notre camarade Francis Zégut au passage. Un répertoire pop-rock qui va les motiver et pousser le groupe à devenir un cœur de rocker sous le nom de Salt and Pepper, qu'on peut traduire par sel. Et
mais oui, mais Salt and Pepper, ça me rappelle quelque chose, ça, ce scénario.
Il y a une bonne raison. Pas cette histoire, elle est vraie. Ouais. Les seniors ont bel et bien monté une troupe qui a fait des concerts, qui a sorti un album, qui a écrit un bouquin sur cette incroyable aventure humaine. À l'écran, Mathilde Seigné joue la prof de chant, entourée d'un casting épatant, vous allez reconnaître. Andrea Ferréol, Myriam Boyer, Bernard Lecoq, Brigitte Rouen ou Anne Benoît, ils chantent tous et toutes, d'ailleurs. Et rien que pour vous, Vincent.
Oui.
Voici aussi ce qu'on peut entendre dans le film.
Ah oui, ça c'est Space Oddity. Hein,
Space Oddity, de votre camarade
David Bowie.
David Bowie.
Cœur de rocker, donc c'est à voir quand et où alors ?
Alors ça sort aujourd'hui, à voir et à écouter à partir d'aujourd'hui au cinéma.
Ça a l'air très sympathique. D'autres sorties à nous conseiller ?
Oui, La Passagère d'Héloïse Péloquet qui marque aussi le retour. Et j'en suis ravi, dans un premier rôle de Cécile de France. Histoire solaire bouleversante d'une femme de marin-pêcheur sur l'île de Noirmoutier. Elle s'appelle Chiara. Elle a quitté son plat pays, trouvé l'amour et un métier sur cette île. Apparemment, tout va pour le mieux.
Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Sur l'eau, on doit prêter assistance à n'importe qui, n'importe quand. Et même à une étrangère comme moi. Et ça, je ne l'oublie pas. Finalement, je ne suis jamais retournée en Belgique. Ben oui, parce que ma vie, elle est ici et... Ma vraie famille aussi, celle que j'ai choisie.
Alors je vous disais, apparemment tout va bien, sauf que Chiara va succomber à la passion avec Maxence, un jeune apprenti, et cette passion va en fait remettre en cause une vie qu'elle croyait toute tracée. C'est jamais glauque, mais au contraire, tout le temps sensuel, romantique, très beau portrait de femme libre qui veut décider de son destin et qui refuse les conventions ou le candidatement. Encore une fois, Cécile de France, superbe et grande comédienne.
Oui, très vraiment. Grande actrice. On peut avoir envie de frissonner avant le 1er janvier. Hein. Vous avez quelque chose pour ça ?
Je vous présente Mégane.
C'est Mégane.
Bonjour Mégane, enchantée. Enfin, ça ne va pas durer longtemps, vous allez voir. C'est l'héroïne d'un film de science-fiction qui vire au cauchemar. Mégane, c'est un prototype de poupée robot dotée de l'intelligence artificielle. On y arrive presque, c'est quasiment dans les cartons. Sa créatrice va décider de tester sa créature auprès de sa nièce qui est orpheline. Malheureusement, Mégane va révéler des capacités beaucoup plus terrifiantes et dangereuses que prévues. Voilà un thriller horrifique, malin, efficace, qui va peut-être vous faire regarder d'un autre œil. Vous savez, les joujoux offerts le week-end dernier.
Oui.
Peut-être pas tous sympas, finalement.
Non, on va frissonner également. Mégane, elle fait peur.
Oui, bah déjà physiquement, vous allez voir. Moi, je ne l'achèterai pas, par exemple.
merci. En tout cas, on ira au cinéma. C'est mais important d'aller au cinéma pour terminer l'année en beauté.
Bien sûr.
Une année cinéma qui était...
Qui était compliquée. Ouais. C'est bien reparti depuis l'automne. Et heureusement, là, il y a Avatar qui draine les foules dans les cinémas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres très, très jolis films à voir aussi.
Merci, Stéphane. Je vous souhaite une bonne fin d'année.
Moi aussi.
Et il est 12h58, donc on va marquer une courte pause. Dans un instant, ce sera le rappel de l'info avec Antoine Cavalierou. Et puis vous aurez la parole à partir de 13h au 32-10. Évidemment, vous pouvez réagir à l'information qu'on a eue juste avant le début d'RTL Midi, juste avant midi, la disparition à l'âge de 74 ans de Linda de Souza. On sera d'ailleurs avec son ancien agent, Fabien Lecoeuvre. Il sera avec nous pour réagir. On va aussi parler des bénéfices de la SNCF. Et oui, quand même, ça, c'est étonnant. C'est 2,2 milliards de bénéfices, on n'en attendait pas tant. L'uniforme à l'école, faut-il le rendre obligatoire? C'est une proposition, elle vient du RN, mais elle va jusqu'à diviser la majorité. On parlera aussi des bonnes résolutions pour l'année prochaine, du boom des nouvelles entreprises. Et n'oubliez pas, la playlist, on est en train de fabriquer la playlist pour vous faire danser le soir du nouvel an. Vous pouvez peut-être nous aider pour ça. 32-10.
RTL Midi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
RTL, vivre ensemble.
Il est 13h.